Je donne la parole à Georges Huttner.
Bonjour. Je vais vous présenter mon propre témoignage du travail de contrôle que j'ai mené avec Françoise Dolto. Et j'ai envie de vous dire que ce témoignage-là n'est à prendre ni plus ni moins que un simple témoignage venant s'inscrire parmi ceux qui existent déjà. J'ai envie de présenter autant la pratique du contrôle avec Françoise Dolto, en tous les cas de la manière dont moi je l'ai vécu à l'époque, tout jeune psychanalyste, de sa position vis-à-vis de la transmission, qui reste un droit fil d'ailleurs de nos journées, et bien sûr de ses élaborations cliniques, théoriques, constantes. D'ailleurs, comme Yannick François nous l'a fait remarquer tout à l'heure, on parle toujours de Françoise Dolto comme d'une clinicienne de génie, de talent. C'est effectivement oublier tous les apports théoriques immenses qu'elle a fait à la psychanalyse d'enfants. Rapidement, les concepts, bien sûr, d'image inconsciente du corps, les castrations symboligènes, mais au plan technique, des éléments très importants, le dessin, le modelage, le paiement symbolique. Et on ne peut pas d'ailleurs évoquer cette richesse, cette complexité des apports de Françoise Dolto, tels qu'on les retrouve dans le vocabulaire doltoïen. Alors soit, et c'était son style, des formules rapides, fulgurantes, papaïsé, mamaïsé, je vous les donne pas tous. Et puis on l'a vu à l'entrée tout à l'heure, dans les formules fulgurantes, la bêtise, ça se soigne. Et à l'opposé, des phrases extrêmement complexes, j'en ai pris une par hasard dans son œuvre, c'est des phrases sur lesquelles on peut s'interroger extrêmement longtemps. Soyez attentifs, c'est une phrase très longue, comme elle savait les faire. Quand il y a une répétition d'un apaisement des tensions par la réception, par l'émissivité, au contact d'un autre corps, le lieu de la séparation de la communication devient, au bout d'un certain temps, zone érogène, où l'autre est attendu soit dans la réceptivité qu'on en espère, soit dans l'émissivité qui nous permet quand on est dans une certaine tension. Et la zone érogène peut être une zone érogène en terminaison de pseudopode ou une zone érogène en trou de la masse qui représente l'image du corps. Il y a une interrogation écrite après sur cette phrase. Donc, présentation en deux parties. Tout d'abord, l'aspect éthique du contrôle avec Dolto, et deuxièmement, quelques vignettes cliniques, donc issues de ma propre expérience. Alors, dans le cadre de ce travail, moi je n'ai eu affaire ni à des divinations comme on en prête imaginairement à Dolto, ni peut-être non plus à des interprétations fulgurantes, en tous les cas, telles que je les ai entendues in situ. Et en fait, on verra par la suite comment ces interprétations de Dolto pouvaient se développer. Et aussi des interventions fulgurantes, ou des longs développements, ou des interprétations fulgurantes, à l'instar d'ailleurs des exemples théoriques que j'ai pris au-dessus. En tous les cas, il s'est agi d'une mise au travail où une psychanalyste plus ancienne accompagnait un jeune psychanalyste dans les premières étapes de sa formation. Et cela ne l'empêchait pas, par exemple, de s'interroger elle-même ou d'interroger l'autre sur quelques points qui lui paraissaient obscurs dans la pratique ou dans la théorie. Par exemple, le premier jour où je suis arrivé pour le rendez-vous de contrôle, elle avait certainement poursuivi la pensée qui l'animait jusqu'avant, et elle me dit tout de go, qu'est-ce que c'est que ces transferts faits par les enfants sur des animaux, des bouts de corps, à propos de la phobie de l'enfant. Elle ajoute, mais ce n'est pas humanisé comme transfert. Qu'en pensez-vous ? Elle s'interrogeait elle-même, elle m'interrogeait, j'allais dire banalement, sur la validité d'une théorie qui désignerait la phobie comme étant l'ordre de la névrose. Alors que pour elle, ce transfert sur des objets, sur des petits bouts de corps, sur des animaux, rejeter l'enfant en dehors de l'humain, donc dans le registre de la psychose. Dans le même temps, et à propos de l'éthique, c'est là-dessus que je vais insister, cette interpellation directe nous mettait tous les deux dans le même statut de deux collègues, parlant théorie ensemble, sans qu'il y ait une quelconque dissymétrie, elle exclut d'emblée l'évocation d'une relation type maître-élève. Était constamment présente dans ses séances de travail la clé de voûte de l'élaboration Françoise Dolto, à savoir ce qu'elle mettait en avant concernant l'éthique de la psychanalyse et par là, bien sûr, celle des psychanalystes. C'est le sujet qui sait dire sur lui-même. Le psychanalyste est là pour l'accompagner dans cette formulation. Elle l'appliquait donc tant aux patients qu'elle avait en cure qu'aux collègues qui venaient chez elle en contrôle. On en trouve d'ailleurs un exemple dans un texte que j'ai trouvé, dans Parler juste aux enfants. Elle dit, oui, pendant que j'y pense, le deuil à faire de ce que Madame Dolto sait tout. On projette comme ça l'illusion qu'un être sait tout, mais c'est chacun de nous qui sait tout. C'est chacun de nous qui sait, s'il veut bien travailler à réfléchir à tout ce qu'il sait, en parlant autour de lui avec des égaux. Il en est allé exactement de la même manière lorsque je lui ai demandé ce qu'elle attendait de la pratique d'un contrôle. Elle m'a répondu, c'est vous qui allez me le dire, c'est vous qui demandez de l'aide ici, poussant ainsi sa position éthique jusque dans le cadre même de la transmission de la psychanalyse, où doit s'exprimer la propre parole du sujet, y compris lorsqu'il s'agit d'un psychanalyste en formation. Il y a un deuxième point sur l'éthique, psychanalytique, sur lequel j'ai désiré insister parce qu'il est trop peu souvent évoqué. Surtout, il est bon de le rappeler à cette époque où l'on voudrait nous faire croire à la facilité et à la rapidité des prises en charge, par exemple type rééducatif. Il n'existe aucun traitement d'enfant ou d'adulte d'ailleurs qui ne se fasse sans qu'émerge la souffrance psychique. Malgré l'apparent désagrément procuré par le symptôme, le sujet vit dans le confort de la position régressive où il se trouve. Le travail psychanalytique va l'amener au renoncement à cette position et à l'acceptation d'une position progrédiente où il va prendre le risque de sa propre évolution. Et ceci ne se fait qu'avec un éprouvé de souffrance psychique que l'on doit qualifier, à mon avis, d'indispensable au traitement. Juste quelques lignes de Dolto qui, dans le même esprit. Plus un enfant souffre d'un désir non dit, d'un désir non satisfait, plus ce désir est reconnu. Et si nous lui donnons le droit de souffrir, nous lui donnons le droit aussi d'accepter qu'un autre souffre, que la souffrance fait partie de l'humanisation quand elle est communiquée. Elle ajoute même un peu plus tard, interpellant un enfant, « Ta souffrance, c'est ta richesse. » J'en viens maintenant à la partie vignette clinique. Je vais vous donner 4 vignettes, issues donc de mes propres séances de contrôle. Premier exemple. Elle me dit, heureusement vous vous en êtes occupé. Il serait devenu psychotique. Et on entend bien qu'il y a toute la théorie de la psychose telle que Dolto l'a développée dans cette petite interpellation. Elle n'envisage pas la psychose du côté d'une structure définitive où le sujet serait irrémédiablement figé dans son rapport à l'ordre du langage. Elle l'aborde, elle, comme l'impossibilité pour un sujet de se mettre dans un rapport langagier à l'autre. La psychanalyse est là pour qu'il puisse faire entendre à autrui, donc à lui-même, l'incapacité où il a été de ne pas rencontrer l'autre par sa parole. Comme elle le dit, tout traumatisme non élaboré porte en lui ses fruits de mort pour la période suivante, origine de la psychose. Deuxième exemple. Il s'agissait d'un enfant que j'avais donc en analyse à l'époque. Un enfant que je vais oser décrire comme ça, très très moche, avec une double rangée de dents, avec un visage dissymétrique, avec un prognatisme épouvantable. Et d'ailleurs, ce qui s'entendait très très directement, sa mère n'était pas arrivée à l'aimer justement du fait de ce que j'ose appeler cette laideur. Lors d'une séance d'analyse, et c'est cette vignette-là que je rapporte à Dolto, il dessine très très méticuleusement un personnage, et puis rapidement, avec beaucoup de détails, de minutie, on reconnaît rapidement les lunettes, la moustache. À l'époque, je portais des nœuds papillons. Et de toute évidence, c'est le portrait, j'allais dire, du psychanalyste qu'il dessine. Et le seul commentaire qu'il fasse de ce dessin, la seule parole dans sa séance, qu'il écrit « Vous êtes beau ». Moi, j'étais drôlement embêté avec ça. Et j'avais essayé donc j'ai parlé de ce cas avec Dolto en espérant qu'elle me donnerait une solution pour élaborer quelque chose que je pensais de l'ordre de sa dévalorisation, auto-dévalorisation, et qu'elle me donnerait une idée à propos notamment d'image inconsciente du corps. Alors, quand on a travaillé avec Dolto, on sait qu'elle était capable de parler extrêmement longtemps. Eh bien, pendant cette séance-là, elle n'a pas dit un mot. Pas dit un mot. Et je suis, donc, au bout de quasiment une heure, je me suis retrouvé en bas de chez elle. Et là, j'ai compris pourquoi elle n'avait pas dit un mot. Parce qu'il m'a fallu longtemps de réflexion pour comprendre que ce qui l'intéressait, c'était l'affirmation par l'enfant de sa propre parole. Les méandres du narcissisme du psychanalyste ne l'intéressaient pas du tout. Moi, ça m'intéressait un peu plus, mais c'est une autre affaire. Le psychanalyste, dans son exercice, n'est pas un sujet. Il est l'instance qui permet au sujet, son patient, de se révéler. Et il n'a pas, somme toute, à envahir la scène de la psychanalyse de l'autre par son propre questionnement. Troisième vignette. J'avais une patiente que je qualifiais adulte, d'érotomane. Alors c'est vrai, un grand, grand envahissement qui a duré plusieurs années. Et donc j'espérais que Dolto m'aiderait aussi à élaborer ma propre position psychique qui aurait pu, par exemple, inconsciemment me faire désirer être aimé par cette patiente qui aurait généré cette érotomanie. Eh bien, j'arrive au moment très particulier de cette analyse où la patiente avait refusé de payer 10 séances d'affilée. On était à la 10e séance. Donc je voulais élucider ce qui, dans ma proposition, avait permis à mon insu de tolérer cette attaque au cadre de la psychanalyse. Dolto, me coupe quasiment la parole et me dit de manière ferme,
Je te gronderai, t'inquiète pas, je te gronderai.
Donc, Catherine ne me gronde pas, elle n'a pas pris la relève, c'est gentil. J'avais peur de dépasser le temps. Donc, fermement, elle m'interrompt. C'est intéressant que je m'interrompe moi-même à ce moment-là. Arrêtez tout de suite, en ne payant pas ces séances. elle vous signifie qu'elle ne veut pas faire une psychanalyse. Le non-paiement n'était pas l'émergence d'une résistance, mais il devait être compris comme le refus par la patiente de faire une psychanalyse et de s'engager dans le processus symbolique comme le paiement en atteste et que toute psychanalyse implique. Elle, j'ai pris ça dans un autre passage de Dolto. « Moi, je demande pas à vous soigner, dit-elle. Si vous voulez un traitement, payez-moi. » C'est le paiement qui atteste de la demande du patient. La demande d'analyse doit toujours être de son côté à lui. Son refus permet, comme dans ce cas, toute dérive imaginaire, par définition, hors analyse, puisque le champ symbolique n'est pas défini. Troisième exemple. Aussi un cas d'adulte que je présente en contrôle, et puis apparaît le signifiant Peyrou, P-E-Y-R-O-U, qui est une balade à Montpellier. Enfin, et j'avais entendu le père Roux, le Perrault. Et en disant ça à haute voix, pendant ma séance de contrôle, à Dolto, j'entends le père où. Oh, drôlement fier de ma découverte, je lui dis, bah, tiens, ça je viens de l'entendre maintenant, je ne l'avais pas entendu. Pendant la séance, elle dit à ce moment-là, vous n'êtes pas encore psychanalyste, mais vous n'empêchez pas votre patiente de faire une psychanalyse. Alors, 20 ans plus tard, je m'interroge toujours, j'ai trouvé plein d'hypothèses là-dessus, mais je vais vous en livrer quelques-unes, si vous voulez bien. Ça voulait dire qu'apparemment, au plan strictement de l'échange inconscient, j'empêchais pas que la psychanalyse se passe, même si apparemment, j'étais pas encore dans le coup. Et en tous les cas, ce qu'elle me signifiait, c'est que, in situ, au moment de la séance, je n'avais pas la disponibilité psychique, ma propre liberté associative, et que, au fond, le processus analytique, ou soi-disant la règle fondamentale, s'impose au patient, la règle dite de l'association libre, mais par le fait, doit également traverser le psychanalyste, qui doit se mettre lui aussi dans cette disponibilité psychique, de l'association libre et en tous les cas nécessaire à la liberté de l'écoute au moment de la séance. Il y a un lien avec le paiement. Quand la séance est terminée, le paiement atteste que c'est fini. Et bien, donc la séance s'est jouée là. Oh, c'est parfait. J'ai 2 minutes d'avance. Si je sais. J'en arrive à ma conclusion avec 1 minute 30 d'avance. Françoise Dolto a été partie prenante de tous les moments qui ont animé le mouvement psychanalytique français pour s'en détacher à la fin de sa vie. Elle tenait plus à assurer son rôle de transmission de la psychanalyse et principalement sur le plan éthique. Son souci dans ce registre était constant. D'où cette phrase que j'ai notée, dite également par elle lors d'un des rendez-vous de contrôle. C'est parce que vous êtes psychanalyste qu'ils viennent vous voir. Vous ne ferez donc jamais assez de psychanalyse. Comprendre bien sûr pour les patients. Cette déclaration, qui date de plus de 20 ans, me paraît extrêmement actuelle dans le développement qu'on peut lui en donner aujourd'hui. Quels que soient les discours à la mode, les psychanalystes, a fortiori ceux qui s'occupent d'enfants, ont le rôle et le devoir de ne rien céder à ce qui fait leur technique et leur éthique, laissant à d'autres l'illusion d'un travail rapide et aisé. Je terminerai cette présentation par la phrase de Dolto, qui est la dernière du livre, intitulé « Autoportrait d'une psychanalyste », texte mis au point par Alain et Colette Magnier. Voici la phrase. « Voilà, mes amis, je crois que je vous ai dit ce que je voulais, à mon tour, vous transmettre. »
Je vais faire une proposition. On va changer la